Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est une fiction. C'est-à-dire que il y a évidemment quelques éléments que j'ai empruntés. Je vivais des choses dans mon travail qui me servaient pour le roman. Et je faisais des recherches pour le roman qui me servaient dans le travail.
Jusqu'à 22h.
C'est ça qui est extraordinaire.
RTL.
Bien sûr, un écrivain, il donne toujours un petit peu de lui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fiction.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dubaï, c'est une ville qui fascine, une oasis de modernité, poussée en plein désert, une cité dont la population a été multipliée par 4 en 20 ans. On vous emmène visiter la capitale des Émirats Arabes Unis avec notre invité Olivier Auroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, ça y est, vous devenez un sociétaire de la curiosité.
Tout à fait.
Hein, vous avez votre ronde serviette. Plaisir.
On est ravis de vous retrouver. Vous publiez, on l'a compris, un roman, Les meilleures intentions du monde, c'est aux éditions Intervalle. Le personnage principal de ce roman, on peut dire d'une certaine façon que c'est Dubaï. Roman que vous signez d'un pseudo, Gabriel Malika. Pourquoi ce nom d'emprunt ?
Alors, parce qu'en fait, à l'époque, je l'ai écrit en 2011, j'avais peur d'être inquiété pour ce roman. Et puis aussi parce que moi, j'avais des clients, hein, je travaillais dans la communication et le design. Et en fait, les clients n'aiment pas le mélange des genres. Ça aurait été préjudiciable pour moi que le client il google Olivier Auroy et il tombe sur un roman qui parle des femmes en Orient, des mariages mixtes. Donc j'ai préféré prendre le pseudonyme de Malika, qui en arabe veut dire la reine est au roi. Voilà l'astuce.
Olivier Auroy, on a bien compris. Vous avez travaillé pendant combien de temps à Dubaï ?
10 ans.
Donc vous connaissez bien cette ville ?
Je connais très bien cette ville, parce qu'en plus moi je suis arrivé avant, l'érection par exemple de la grande tour, le Burj Khalifa, avant que vraiment Dubaï rentre dans l'ère moderne. Donc je l'ai vu vraiment grandir, et surtout j'ai traversé la crise, qui a été une crise de maturité en fait.
Olivier Auroy, on parle souvent de Dubaï dans les médias et quand on en parle, on associe toujours cette ville au mot démesure. C'est vrai que tout y est excès là-bas, démesuré.
Il y a beaucoup d'excès, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui se baladent avec des panthères dans leur voiture, des 4x4 en or, tout ça. Tout est très très grand. Alors qu'à Paris, quand on est dans un restaurant, on est en général à 20 cm de son voisin et on entend la conversation d'à côté. À Dubaï, il y a 200 mètres, hein, j'exagère à peine, entre les tables. Tout est très grand, tout est très vaste et ils font tout grand. On y reviendra, l'aéroport de Dubaï, il y en a deux là, c'est absolument incroyable.
C'est le plus grand aéroport du monde, en fait.
Oui, c'est le plus grand du monde, donc c'est vrai. Après, moi je trouve qu'ils en ont un peu trop rajouté.
C'est une recherche de la démesure au quotidien, c'est ça ?
C'est parce qu'en fait, dès le départ, ils voulaient faire des records. Ils voulaient faire, c'est une tactique de relations publiques, de RP, hein. Ils voulaient faire des records pour se faire repérer.
Donc la tour la plus haute.
La tour la plus haute, l'île artificielle la plus grande du monde, l'hôtel le plus haut, le Burj Al Arab en forme de voile, avec vue sur la mer. En fait,
l'aquarium le plus grand du monde.
L'aquarium le plus grand du monde.
C'est impressionnant, ça ?
Ah, c'est absolument extraordinaire. Il y a des endroits de Dubaï dans des hôtels où on est en train de dîner, puis vous mangez vos sushis avec à droite un requin qui se balade. Non, ça fait vivre des moments un peu particuliers.
Le supermarché le plus grand du monde aussi, il faut 7 jours pour le visiter.
Ah, le Dubaï Mall. Le Dubaï Mall qui est en fait c'est le plus grand shopping mall.
Ouais. Ouais.
Qui est en fait, c'est oui, c'est si j'osais, je dirais c'est un peu la Mecque du shopping. Et d'ailleurs, et c'est intéressant parce que dans la Mecque du shopping, on retrouve toutes les religions, toutes les nationalités. Ça, c'est intéressant.
Alors justement, là, on vient de faire la liste de ce que l'on entend le plus souvent dans les médias associés à Dubaï. À l'inverse, que ne dit-on jamais de Dubaï, Olivier Auroy, et qui mériterait d'être connu des auditeurs d'RTL ?
Ce qu'on dit jamais, en fait, c'est que Dubaï est un petit peu ce que fut dans le passé des villes comme Beyrouth. C'est-à-dire, c'est un peu le poumon de l'Orient et du Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est là où les avoirs financiers des Saoudiens, des Iraniens vont. C'est là où les familles syriennes, palestiniennes, irakiennes se réfugient ou prennent une deuxième maison parce que leur famille est éclatée. C'est là aussi où on rencontre vraiment ce que c'est que la mondialisation et la globalisation. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à Dubaï en me disant, il va falloir que j'apprenne l'arabe. Non, non, non. Il a fallu que j'apprenne l'anglais, que je comprenne les accents des Sud-Africains, des Australiens. Il a fallu que je comprenne qui c'était Manny Pacquiao, le champion de boxe philippin. Qui c'était les stars de Bollywood à cause du cinéma indien, comprend l'histoire du Pakistan, parce qu'avec le business, je voyageais beaucoup. Donc en fait, pour le festival de littérature de Dubaï, j'avais accueilli Catherine Pancol, j'ai passé une journée avec elle, et elle m'a dit, mais il faut le dire. Il faut dire que cette ville, c'est le Blade Runner, c'est le Blade Runner en fait.
C'est la Tour de Babel.
La Tour de Babel, le premier exemple qu'on a d'une ville du 21e siècle globale.
Réussi. Donc c'est une mondialisation réussie à Dubaï, c'est ce que vous nous dites ?
Moi je pense que c'est réussi parce que, pourquoi ? Quand vous allez le vendredi à Safa Park, qui est l'équivalent du Luxembourg, on va dire, à Dubaï, là vous avez toutes les nationalités qui se rencontrent dans leur tenue. On me dit, ah bah oui, mais c'est comme à Londres, à Paris. Non, là, vous avez le Soudanais, il est en Soudanais, et tout le monde, et ça joue au foot, et ça partage les brochettes, hein, c'est les Nations Unies du kebab, et tout se passe, et tout se passe très bien. Oui. Moi, et on est en terre d'islam. C'est-à-dire que tout ça se fait avec en fond le muezzin qui chante, et c'est quand même assez fabuleux.
Ça, on en reparlera de la façon dont l'islam à Dubaï s'est adapté justement à cette mondialisation et au business. Olivier Auroi, parce que qu'est-ce qui réunit ces, je ne sais pas combien, 100, 120, 130, 140 nationalités différentes à Dubaï ?
C'est vraiment le business. Ouais. Cheikh Mohammed, on reviendra, hein, qui est le monarque éclairé, dit ce qui est bon pour le business est bon pour Dubaï, ce qui est bon pour Dubaï est bon pour le business. Dès qu'il y a eu un tantinet, un petit problème politique, il est intervenu, comme dans les 70, il y avait eu des bagarres de rue entre les Indiens et les Pakistanais à cause de la guerre. Cheikh Mohammed les a tous virés en disant « Attendez, Dubaï, ce n'est pas ça hein. ». On ne fait pas de politique et on ne fait pas de religion au sens où on le voit de nos jours. Pas du tout. Ils le font de façon très subtile. Ils disent ici, c'est business. Je veux que tout le monde soit en sécurité. Je veux que tout le monde prospère. Et ça marche.
Dubaï, c'est aussi une ville en avance sur son temps en matière de technologie, par exemple.
Alors, elle est en avance sur son temps pour la région. Hein. C'est la première ville de toute la région qui a un métro aérien absolument extraordinaire. Alors pour les aéroports, c'est car ils sont carrément en avance sur le monde entier, faut le dire. Mais je pense qu'ils vont rattraper leur retard très très vite, parce que contrairement à nous, eux ils commencent de zéro. Donc ils peuvent déployer dès le début le meilleur des technologies avec le meilleur des techniciens. Alors que nous, dans la vieille Europe, quelquefois, on hésite. Souvent, quand il y a un grand projet à Dubaï, un journaliste dit « Mais pourquoi vous le faites ?» Et ils disent « Bah, pourquoi pas ?» Alors qu'à Paris, ce serait « Mais pourquoi ? Mais vous êtes malade !» C'est le paradis des architectes, Dubaï. Les architectes s'éclatent à Dubaï, parce qu'on leur permet à peu près tout.
Et cet aéroport dont vous avez parlé rapidement, en quoi est-il impressionnant ? C'est d'abord gigantesque, j'imagine.
C'est une ville. C'est une ville, d'ailleurs. Il faut, pour atteindre certaines portes, faut 30-35 minutes. Non, parce que c'est quand même un aéroport où arrivent les A380. Et il y a des images où vous en voyez 5 ou 6 alignés. Et le moment le plus occupé de l'aéroport, c'est à minuit 30.
Pourquoi ?
Parce que, comme c'est entre l'Europe et l'Asie, c'est le moment où les vols arrivent et repartent vers l'Asie. Donc, en fait, c'est un point de jonction. Mais c'est tout ce que les gens disent. Les gens disent ça, les gens disent, mais c'est incroyable, il est minuit et c'est super, super busy.
Donc là, on est dans une vision, positive de Dubaï. C'est quand même un pays, c'est pas une démocratie.
Non,
Dubaï,
c'est une monarchie éclairée. On peut pas, faut pas aller s'amuser avec 50 personnes à aller dans le centre de Dubaï et dire le cheikh, j'aime pas ce qu'il fait et il est pas sympathique, ça va causer des problèmes. Hein. Néanmoins, il y a des signes qui montrent qu'ils sont un peu plus avancés que Koweït, Arabie Saoudite, Qatar, notamment un petit canard qui s'appelle Seven Days, donc 7 jours. Et là, il y a les pires turpitudes dans ce petit canard.
Un petit journal, vous voulez dire ?
Un petit journal. Oui.
Une presse relativement libre.
Une espèce
quoi.
De presse de rue où on parle de la maid philippine qui s'est fait ventrer, d'un scandale de corruption dans la police. Ça, au Qatar, ça n'existe pas. Hein.
Et justement, la situation des femmes à Dubaï, c'est comment, Olivier Auroi ?
La situation des femmes... la situation des femmes, elle est... En fait, on parle toujours de ça, on me dit, mais comment... Les femmes, en fait, tiennent un peu la culotte quand même à Dubaï. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est
Mais elles
que...
portent la burqa ou le niqab ?
Alors, on ne parle pas de burqa et de niqab à Dubaï. On parle de hijab et de abaya.
C'est quoi la différence ?
Alors, le hijab, c'est le voile qu'on met juste sur la tête. Et l'abaya, c'est juste une espèce de cape que la femme met, mais elle laisse ses cheveux découverts. Et en fait, Dubaï est en pointe dans tout l'Orient parce que plus le temps passe et plus l'abaya s'ouvre. Et plus le hijab recule pour laisser passer les cheveux. Et on le voit notamment dans la mode.
Alors vous nous raconterez ça, pardon, je vous interromps, Olivier Auroi, parce qu'il y a un défilé de mode auquel vous avez assisté, qu'il faut que vous nous racontiez en détail. Ce sera tout à l'heure dans la curiosité. Sur RTL, la prochaine étape à propos de Dubaï, c'est l'histoire de ces immeubles incroyables et de celui qui a brûlé. C'était pendant la Saint-Sylvestre. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Et oui, on vous emmène à Dubaï. Dubaï et ses 2 millions d'habitants, son aéroport international, ces immeubles, ces buildings absolument mythiques. Notre guide s'appelle Olivier Auroi. Je rappelle que vous travaillez pour une agence de design et que vous avez vécu 10 ans à Dubaï. Vous nous resituez sur une carte, Dubaï ?
Alors ça c'est important, Dubaï c'est sur le détroit d'Ormuz, et donc en fait c'est en face de l'Iran. C'est-à-dire que si, où j'habitais, si je prenais une petite barque, en 2h30, j'atteignais les côtes de l'Iran. Voilà. Et au sud, il y a l'Arabie Saoudite, il y a Oman, un peu plus au nord, si on va vers le nord, ensuite on va vers l'Égypte, etc. Donc, mais il faut vraiment se rappeler de ça, c'est sur l'étroit d'Ormuz.
Et c'est on dit les Émirats arabes unis.
Les Émirats arabes unis.
C'est quoi? C'est une réunion de
sept Émirats, ouais. Dont la capitale c'est Abu Dhabi.
Ah oui, c'est pas Dubaï, voilà. Contrairement à ce que j'ai dit.
Il y a l'Émirat d'Abu Dhabi, il y a Dubaï, après vous en avez d'autres, Sharjah, Fujairah, Al-Qaïm, etc., etc.
D'accord.
Il y a des immeubles absolument impressionnants, on les a tous dans la rétine, hein, ces immeubles de Dubaï. Et l'un d'eux a brûlé, c'était le 31 décembre dernier. Que s'est-il passé? C'était en plein feu d'artifice de la Saint-Sylvestre.
On ne sait pas trop. À Dubaï, on ne sait jamais d'ailleurs. Hein. Les explications ne filtrent pas. On pense que ça peut être une malveillance ou alors une négligence. J'ai entendu une thèse disant que, vous savez, il y a beaucoup de chicha là-bas et que ce serait de la braise de chicha qui aurait, les gens étant concentrés sur le feu d'artifice, hein, qui aurait démarré le feu en fait.
Cet incendie vous a étonné, Olivier Auroy?
Non. Mais il y en avait déjà eu un il y a un an, il y a un building qui avait pris feu près de la marina. C'est une ville qui s'est construite très très vite, trop vite. Et quand on construit vite, on fait des bêtises et donc forcément il y a des choses qui craquent.
Mais il y a eu peu de blessés. 16 blessés légers.
Très légers.
Ils sont très forts pour évacuer leurs immeubles.
Vous l'évoquiez pendant la pause, ils ont des systèmes d'évacuation qui marchent très très bien. Des pompiers qui sont impressionnants, des gros camions.
Ouais.
Non, en général, ils sont plutôt bons pour évacuer les blessés.
Cet immeuble qui a brûlé le 31 décembre, il est situé non loin de la tour Burj Khalifa. Sert de décor à la couverture de votre roman Les Meilleures Intentions.
Alors, sur ma couverture, c'est le Burj Al Arab.
Ah, pardon, je me suis trompé.
Il y a deux Burj.
Ah, bah oui, non, mais vous êtes beaucoup plus pointu que moi. Mais ce qui est drôle sur cette couverture, ouais. Donc de ce livre publié chez Interval, c'est que, premier regard, on se dit, ah bah c'est la vraie, et puis non, en fait, c'est un pâté de sable. Ouais. C'est symbolique, évidemment. Elles sont fragiles comme l'économie du pays.
C'est une métaphore pour exprimer la fragilité de l'économie du pays. Mmh. Pourquoi ? Parce que l'économie n'est plus liée au pétrole, mais à la promotion immobilière. En fait, la bulle immobilière régulièrement craque. Donc en 2008, elle a craqué et tout s'est écroulé. Et c'était, voilà, comme un château de sable. Et c'était un petit peu pour... ce roman, en fait, Les Meilleures Intentions du Monde, est une métaphore de la crise immobilière qui a touché Dubaï et qui ne l'a pas abattue. Parce que tous les journalistes étaient jetés à l'époque, m'avaient interrogé en disant « Alors c'est fini Dubaï ?» Je dis « Non, vous n'avez rien compris. » Elle a juste toussé. Mais c'est loin d'être fini. Il y a trop d'argent en jeu.
Alors, on va continuer de parler là de ce secteur immobilier, ouais. Donc qui tient Dubaï, c'est ce que vous nous expliquez, avec d'abord la question de la main-d'œuvre étrangère.
Oui.
Elle vient d'où, cette main-d'œuvre étrangère?
Alors, en fait, les pays du Golfe se sont répartis la main-d'œuvre pauvre. Donc, Dubaï, eux, ils ont récupéré les Indiens et les Pakistanais. Alors que, par exemple, au Qatar, c'est les Népalais. Donc, vous avez une forte communauté indienne-pakistanaise. Ils ont des baraquements qui sont en dehors de la ville. Dubaï est le pays du Golfe qui a fait le plus d'efforts. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons un peu cyniques, c'est que si jamais il y a des rapports, je sais pas moi, de Human Watch, etc., qui disent les ouvriers sont maltraités, ça affecte Dubaï, donc ça affecte le tourisme. Donc Dubaï a compris qu'il fallait qu'ils fassent des efforts pour traiter les ouvriers, parce que sinon ça nuisait à leur image.
Leurs passeports sont confisqués à ces ouvriers ?
Ça, c'est de moins en moins le cas, mais il y a encore des pays du Golfe où c'est le cas. On leur confisque leur passeport pour les empêcher de partir ou de...
Et ces ouvriers à Dubaï, est-ce qu'ils peuvent aller, venir, avoir
oui,
une vie...
Oui. Ils peuvent aller, venir, ils peuvent avoir une vie relativement normale, ce qui est encore une fois pas le cas dans d'autres pays comme le Qatar.
Mais dans votre roman, vous racontez des scènes absolument horribles. Il y a toujours une corde à nœuds dans le bureau des chefs de chantier.
Il y avait toujours.
Ça c'était encore... Je pense que c'est fini, mais il y a encore 10 ans, c'est ce qu'on m'a raconté de façon répétée, c'est qu'il y avait une corde à nœuds dans les tours. Pourquoi ? Parce que quand il y en avait un qui mourait de déshydratation, eh ben, on le pendait pour faire croire à un suicide. Parce que s'il ne se suicide pas, il faut que l'assurance paye. C'est-à-dire que s'il est mort de déshydratation, c'est la responsabilité de l'entreprise qui doit payer l'assurance. Alors que s'il se pend, c'est un suicide, et là, l'assurance n'y peut rien.
Et ceux qui mouraient en tombant, par exemple, ils étaient emmurés.
Alors, on m'a raconté ça, je veux bien le croire, pareil, c'était à
une époque où c'était un peu sauvage. Vous écrivez un roman, donc
oui, c'est un roman,
faire
attention,
fiction,
bien sûr. Et comme dans toutes les fictions, on en rajoute un petit peu.
Ouais.
Je pense que ça a dû exister vraiment au début, ouais, où il fallait aller vite et on n'était pas très regardant.
Ça veut dire que ça n'existe plus aujourd'hui, à cause de cette question d'image dont vous parliez, mais que cette prospérité immobilière de Dubaï, elle s'est quand même faite aussi Sur le dos, c'est le cas de le dire, l'image, oui, l'image n'est pas là par hasard, des travailleurs étrangers.
Mais il y a tout un chapitre à ça, où il y a un ingénieur français qui parle avec des gens de Dubaï. Moi, quand j'en parlais avec lui, il me disait, vous les avez comptés, vous, les morts de Notre-Dame de Paris, ou pas?
Pas faux.
Et c'était ça le débat. Sauf que moi, je disais, oui, d'accord, mais c'était il y a combien de siècles? Et eux, ils disent,
surtout dans un pays qui se targue d'être en avance dans la région.
Et eux, ils disaient toujours, laissez-nous le temps. Et ils disaient aussi, il faut comprendre que nous, on n'a pas d'histoire, on fait l'histoire chaque jour.
Olivier Aura, vous dites dans votre roman consacré à Dubaï qu'il y a 25 ans, les entrepreneurs avaient un rêve pour leur ville. Est-ce qu'ils l'ont réalisé?
Je pense que oui. Alors, en fait, l'anecdote, c'est que dans les années 70, le père de Cheikh Mohamed, Rachid, il a réuni toutes les grandes familles. Il a dit, j'ai une idée. On a de la mer, on a du soleil, on est au centre du monde. On va créer une ville de nulle part. Est-ce que vous êtes prêts à investir pour construire des tours et commencer à développer le tourisme? Il y a la moitié des familles qui ont dit, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi. Et l'autre moitié qui a dit OK. Ceux qui ont dit OK, ils sont milliardaires. Hein. C'est Al Futtaim, Al Nabouda, Al Rostamani, toutes les grandes familles de Dubaï. Les autres, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que les familles ont accepté d'investir avec le chèque pour faire Dubaï, avec la réussite qu'on connaît.
Et les autres ont fini par perdre l'argent du pétrole, c'est ça?
Les autres, ou ils sont beaucoup plus discrets, parce qu'il y a aussi une question de perdre la face, hein, de honte. Ce qui n'est pas le cas des premières familles, qui sont richissimes.
Olivier Auroy, il y a beaucoup de Français à Dubaï.
Il y a énormément de Français. Les premiers à venir ont été les Anglais, parce que c'était traditionnellement, les Français étaient plutôt en Syrie, au Liban. Ça, c'est l'état de la trêve, ça s'appelle comme ça à Dubaï, c'était les Anglais. Et c'est la presse anglaise qui a fait Dubaï. Tout d'un coup, dans la presse anglaise, on a lu, attendez, il y a un truc à 6 heures de Londres où il fait beau, ils viennent faire un golf au bout du jardin, ils étaient fous les Anglais. Et avec des pubs dans les hôtels, on pouvait aller. Et les Français ont suivi, mais plus tardivement, et en passant par Abu Dhabi.
Quel genre de métier ils font, les Français?
Alors,
à
ils
Dubaï
sont beaucoup dans l'hôtellerie. Ouais. Ça cartonne. Pratiquement tous les directeurs d'hôtels de Dubaï sont des Français.
Et, ils font du pain aussi?
Ils font boulanger. Du pain, pâtissier, ouais. Boulanger. Mais vous savez, à Dubaï, votre identité, c'est votre nationalité. Au début, moi, je ne la ramenais pas trop. Et il y a un Émirati qui m'a dit, mais tu dois être fier de la France, tu dois être fier de ton pays. Et il disait, tu t'en fiches des clichés, vas-y, baguette, parfum, Brigitte Bardot, commence par ça. Et après, il dit, tu dois être fier, ton pays est magnifique, ouais. Tu dois être fier. Et j'ai pris une leçon là un peu.
Il y a un peu un métier par nationalité, les Français. C'est l'hôtellerie.
Alors les Français, c'est l'hôtellerie. Les Indiens, c'est tout ce qui est les fonctions administratives. On y reviendra éventuellement, les Libanais, la communication.
Ah bah parlons-en. C'est les rois de la pub.
Ah mais alors les Libanais, mais les Libanais sont dans leur jardin. Les Libanais, ils parlent. C'est les Italiens de l'Orient. Hein. Ils sont habiles, ils sont commerçants. Ils parlent français, anglais, arabe. Ils fascinent. Encore une fois, hein, les 60, hein, tout le monde allait à Beyrouth pour s'éclater. Et ils ont cartonné. Ils ont créé toutes les agences de pub de la région. Et du coup, ils se sont implantés de façon spectaculaire.
Olivier Auroy, est-ce qu'on est forcément riche quand on vit à Dubaï?
Alors, je vais faire une confidence. Depuis que je suis rentré en France, mon salaire a diminué par 2. Donc, ça fait mal.
C'est-à-dire que les expats sont beaucoup plus riches. Mais est-ce qu'on...
Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Alors après,
on y va fait pour des ça. Affaires.
On
ouais.
y va pour ça. Non, mais il faut pas. Alors on y va pour plusieurs raisons. On y va parce que c'est super de vivre dans un pays où il pleut 2 jours par an, où on peut avoir une baraque à 50 mètres de la mer, ce qui était mon cas, et rencontrer des tortues, des machins le matin avant d'aller au boulot, c'est très très bien. Où il y a cette espèce d'oasis de paix, on laisse les voitures ouvertes, on laisse les maisons ouvertes, on se fait jamais voler, enfin, c'est quand même agréable. Hein.
Pas de délinquance.
Ah, il n'y a pas de délinquance. Il faut dire, les conséquences sont tellement radicales que bon. Et aussi parce que le niveau de vie est un peu plus élevé, bien sûr.
Dubaï, une ville de compromis sur l'islam, l'alcool, les femmes, peut-être aussi une ville de faux-semblants. Pourquoi n'a-t-elle jamais été frappée par le terrorisme? Réponse sur RTL dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On pense de Dubaï que c'est un endroit où on reste pendant 2-3 ans pour faire du business, pour faire de l'argent, ce qui était sans doute vrai au moment du boom. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui restent pour s'y établir.
Jusqu'à 22h.
Moi qui voyage beaucoup dans tous les pays du Golfe, on a tendance à oublier ce qui fait l'avantage de Dubaï. Je voulais redire pourquoi cette ville avait eu tant de succès et que ce succès allait perdurer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On visite Dubaï dans la curiosité, on chasse les idées reçues. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de notre invité Olivier Auroi, qui sous le pseudo Gabriel Malika publie Les meilleures intentions du monde chez Interval, roman à clé sur Dubaï. Vous y avez vécu 10 ans, vous pouviez, on parlait d'une ville de compromis, ville musulmane évidemment, mais où on peut boire de l'alcool.
Absolument. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai des collègues qui vont à Dubaï, qu'est-ce qui va se passer? Mais je dis, il va rien se passer du tout. On peut boire de l'alcool dans les hôtels, chez soi. L'important de Dubaï, c'est de ne pas boire d'alcool sur la voie publique et surtout de ne pas faire d'accident en état d'ébriété. Le consulat de France le sait, le record c'était pendant la demi-finale de la Coupe du Monde en 2006. Il y a tous les Français qui ont pris la route qui est le long de la mer complètement éméchée. Le consulat a beaucoup bossé.
Voilà. Pour qu'il ne passe pas de longues nuits dans les geôles.
Trop de semaines dans les geôles de Dubaï. Ouais. Donc il ne faut pas. Et c'est comme on ne peut pas embrasser à pleine bouche sa copine ou sa femme en pleine rue.
Mais on peut draguer.
Il faut être discret. Alors on peut draguer. Les techniques de drague sont très sophistiquées parce que c'est très discret. Alors c'est vraiment le pays de iPhone dans la main gauche, le Coran dans la main droite. L'iPhone, il y a des applications qui permettent de draguer. Moi, il y a une technique que j'adore qui est sur la route principale. Vous avez l'Emirati qui est dans son 4x4. Il s'approche du feu. Il a remarqué du feu rouge. Il a remarqué une jeune femme émiratie dans l'autre voiture et avec son accélérateur, il fait comme un pigeon. Et il y a l'Emirati qui fait et c'est extraordinaire. Et prochain feu, pareil. Et puis après, ils se contactent.
Mais
et puis il y a Bluetooth.
Via le téléphone.
Ah bah ça se fait, ils sont comme ça. Et après, ouais, ils se contactent par Bluetooth.
Ouais. Les femmes sont souvent draguées.
Les femmes sont souvent draguées. Mais moi, j'ai vu plus souvent des hommes émiratis avec des femmes occidentales que l'inverse. Hein. L'inverse, j'ai deux copains qui s'y sont cassés les dents. J'ai un copain à Jeddah en Arabie Saoudite et un autre à Dubaï avec une Jordanienne. Ça n'a pas fonctionné parce que vous avez la famille sur le dos, vous avez les frères sur le dos. Mmh. Ça rigole pas.
Est-ce que c'est vrai que la marque de lingerie Victoria's Secret cartonne à Dubaï?
Cartonne. Bah, on en a eu l'expérience avec mon épouse, on était à un mariage émirati. Moi, j'ai été avec les hommes, ça se passe comme ça, hein, au 6e étage de l'hôtel. On a passé 3 heures à se regarder, à boire du jus d'orange, du champomis, c'était pas génial. En revanche, ma femme, elle était au 3e étage, elle m'a dit, tu n'auras jamais idée de ce que j'ai vu. C'est-à-dire, elle a vu des femmes qui, sous la baïa, c'était une jungle, quoi. C'était un festival de tenues complètement affriolantes, avec du mascara partout. Elles se sont complètement éclatées.
Quoi. Qu'entre elles, elles se montrent leur corps, des corps avec des sous-vêtements.
Elles sont incroyables. Ouais.
Vous avez assisté, alors peut-être que c'est la fiction du roman Les meilleures intentions du monde, à un défilé de mode où on donne presque des conseils pour draguer malgré le voile, c'est ça?
Alors, j'ai assisté effectivement à des défilés de mode, mais c'est après en coulisses, j'en ai un peu rajouté dans le roman, ouais. C'est un peu en coulisses après qu'on m'a expliqué, oui, les techniques de drague. Il y a beaucoup de choses qui se font avec les mains. C'est-à-dire que quand on salue une femme émiratie, pour pas se tromper, on met la main sur le cœur, parce qu'elle ne peut pas accepter de vous prendre la main. Mais moi, je me souviens, la première semaine, dans réunion de bureau, j'ai cette jeune femme avec un abaya, légèrement ouverte sur le chemisier, avec les cheveux qui vont du lait, comme ça, les petites boucles, les yeux de biche, enfin bref. Elle me serre la main et elle me retient un peu les doigts, comme ça, très lentement. Et là, je me suis dit, oh là.
Attention.
Alors là, c'est pas ce que j'attendais.
Voilà, son frère est patibulaire, mais presque, donc attention danger.
Ah bah là, c'est le signe, tu m'intéresses, parlons, mais ça ne se fait pas ouvertement.
Vous avez jamais fait ça avec un garçon, Sidonie?
Non.
La petit retenu de l'index, non.
Franchement. Mais on dit Dubaï, ville de compromis, Olivier Auroi, ça veut dire quoi par exemple sur les imams radicaux? Ils ont pas le droit de citer, ou alors il y a une mosquée où ils peuvent prêcher.
Non, Cheikh Mohamed les a dégagés.
Donc le grand patron de la ville.
Patron, il a dit à partir du moment où on s'ouvre à l'étranger, il faut qu'on tolère un certain nombre de choses. Les étrangers ont besoin de se divertir, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de voir des femmes, d'où la prostitution d'ailleurs, autorisée tacitement à Dubaï. Et il a dit les prêches radicaux, j'en veux pas.
Mais les autres religions sont tolérées.
Il y a l'église Sainte-Marie, qui est un des diocèses les plus riches du monde, parce que faut imaginer, sur 2 millions, je ne sais pas, il doit y avoir genre des milliers, centaines de milliers de catholiques qui donnent leur sou à Sainte-Marie. Et la légende, je pense savoir où c'est, dit qu'il y a une synagogue à Dubaï, planquée, pour certains VIP, ce qui en ferait quasiment la première synagogue du coin, quand même, de la région.
Est-ce que le régime de Dubaï joue un double jeu? Est-ce qu'il finance les réseaux terroristes?
Je ne pense pas. Encore une fois, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal discuté. Je pense pas qu'ils financent. Je pense que quelquefois ils ont fermé les yeux. Maintenant, c'est faut se rappeler qu'après septembre 2001. Il y a eu des enquêtes du FBI parce qu'il y avait des financements qui passaient par des banques charia compliant de Dubaï. On raconte que la bombe nucléaire à la Corée du Nord a été négociée dans un des grands hôtels avec le Pakistanais, le docteur Khan, je crois. Donc, Dubaï a tendance un peu à fermer les yeux sur le business. Hein. Mais financer directement des terroristes, je ne pense pas.
Mais ça peut être une ville de blanchiment, c'est-à-dire qu'ils profitent par ricochet de l'argent du terrorisme.
Probablement. Ouais. Mais probablement, mais en fait, je pense que l'intelligence de Dubaï, c'est de dire, c'est de faire comprendre qu'à Dubaï, tout le monde est les bienvenus. Et en fait, personne dans le Golfe n'a intérêt à ce que Dubaï se... Mais si vous voulez, c'est ce que je mets dans le roman, il y a un chapitre qui est consacré, c'est que moi, ce qui m'a terrifié, c'est que je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'un terroriste à Dubaï.
Et oui, en fait, l'un de vos personnages, c'est un djihadiste.
On peut faire un carton. Oui. Enfin, quand on commence à adopter le génie du mal à Dubaï, il y a par exemple une station d'essence qui est juste au-dessous d'une station de métro. Donc le premier dingue qui veut faire un carton, il fait un carton.
Mais il n'y a jamais eu d'attentat terroriste à Dubaï. Alors est-ce que ça veut dire que cette ville qui prône un islam tolérant est quand même un peu protégée? Pour quelle raison elle est protégée?
Parce que le truc, Thomas, c'est qu'en fait, Dubaï a aussi une forte immigration d'origine iranienne, qu'on appelle les Bastakis, donc des chiites. Et en fait, Dubaï réunit en son sein tous les mouvements de l'islam, toutes les nationalités arabes et un certain nombre de courants. Donc, si vous voulez, c'est un peu un mélange, on va dire, c'est un mélange entre, je sais pas moi, Miami, Genève et Beyrouth. C'est un oasis que tout le monde a intérêt à préserver.
Donc, ça veut dire que l'argent est plus fort que la religion et que les tensions entre les religions, puisque en ce moment, les chiites et les sunnites se font quasiment la guerre.
Mais tout à fait. Mais
et à Dubaï, non.
Ah ben non, et à votre avis, ça profite à qui? À Dubaï. Moi, j'ai utilisé dans mon livre l'analogie. Dubaï, c'est un peu comme un crabe sur le sable. Et puis, dès qu'il y a une mer trop forte, il récupère tous les débris. Donc, une mer trop forte, c'est quoi? C'est le conflit, un conflit ici, c'est un conflit là. Et Dubaï, il récupère les immigrants, plutôt riches, faut le dire, petite béquille au passage. Il récupère les fonds, les flux financiers, etc.
Une terre d'asile pour les riches.
Mais c'est ma petite réserve et mon petit mécontentement, c'est que je pense qu'il pourrait faire plus d'efforts vis-à-vis de ceux qui le sont moins.
D'un mot, l'Expo universelle qui doit se tenir en 2020 là-bas, qu'est-ce qu'on y verra? Ça va être forcément gigantesque.
Ça va être gigantesque, mais je pense aussi que ça va être fascinant. Je pense que le monde va enfin découvrir ce qu'est Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, dans la compétition que se livrent les pays arabes, c'est l'année où Dubaï va mettre un taquet au Qatar. Avant la Coupe du Monde.
Deux ans avant la Coupe du Monde de foot.
Ouais. Auquel je ne crois pas, non, mais ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que le monde va se dire, mais c'est fou quoi. C'est une ville ultra moderne, on y est très bien accueilli, le monde entier y est, et ça va être un côté un peu United Colors of Benetton en terre arabe.
Bon, on va suivre le match, Olivier Auroy.
Merci beaucoup, Olivier Auroy. Les meilleures intentions du monde, c'est donc ce roman que vous aviez publié sous le pseudo de Gabriel Malika, c'est publié aux éditions Intervalle avec donc la tour de
Burj Al Arab.
Burj Al Arab en couverture. Et puis vous publiez là, en ce moment, un autre roman sous votre vrai nom, Olivier Auroy. Ouais, au nom d'Alexandre, chez Intervalle. Là, il est question de marque aussi.
Alors, au nom d'Alexandre, ça vous rappelle une émission qu'on a fait ensemble. C'est l'histoire d'un homme qui a un métier qui n'a pas de nom et il crée des noms.
Créateur.
Sauf peut-être le plus essentiel, et c'est ce que le livre révèle.
Vous écoutez RTL.